Le journal Antoine Marette. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Nous irons à Moscou où a eu lieu ce matin un défilé militaire pour le 75e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur les nazis. Une démonstration de force pour Vladimir Poutine qui s'apprête à faire voter un référendum lui permettant de prolonger son pouvoir. La Covid-19 continue de faire des ravages en Amérique et notamment dans le sud des États-Unis. Au Texas, on a enregistré hier 5000 nouvelles infections, un record depuis le début de la pandémie. Dans l'actualité française, l'économie serait-elle un peu mieux orientée que prévu? C'est ce que laisse penser un indicateur de l'INSEE. Les entreprises retrouvent un peu le chemin de la confiance. L'invité de ce journal sera Patrick Chaise, sénateur LR de l'Ain. Nous nous intéresserons avec lui à l'empreinte environnementale du numérique. Le Sénat présentait ce matin les travaux d'une mission sur ce sujet. Vladimir Poutine montre ses muscles. Le président russe a assisté ce matin à un défilé militaire à l'occasion du 75e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur les nazis. La parade aurait dû avoir lieu le 9 mai dernier. Elle a été reportée en raison de l'épidémie de la Covid-19. Reporté comme par hasard la veille du début d'un référendum capital pour l'avenir de la Russie. Il devrait permettre à Vladimir Poutine, déjà au pouvoir depuis plus de 20 ans, de prolonger ce pouvoir. La parade aérienne et terrestre a réuni plus de 13 000 soldats et 200 engins. Mais Vladimir Poutine a choisi d'être conciliant. Il n'a pas fait d'allusion directe ni au révisionnisme historique qu'il oppose aux Occidentaux, ni à la réforme constitutionnelle. À Moscou, le reportage de Claude Brouillot.
Devant 14 000 soldats aux tenues impeccables, comme prévu, Vladimir Poutine a souligné ce matin le rôle capital des forces soviétiques qui ont, a dit le président russe, libéré les pays d'Europe de l'envahisseur et sauvé du nazisme le peuple allemand. Mais pour le reste, en l'absence des leaders occidentaux, Vladimir Poutine n'a fait aucune allusion aux polémiques de ces derniers mois, en provenance de Pologne notamment, sur le statut d'agresseur de l'URSS en 1939. Au contraire, le maître du Kremlin a insisté sur la nécessité, selon lui, pour la communauté internationale, de rechercher ensemble des solutions aux grands problèmes contemporains. Nous comprenons combien il est important de renforcer l'amitié, la confiance entre les peuples, ainsi que l'ouverture d'un dialogue et une coopération sur les questions actuelles qui sont à l'agenda international. Une intervention également dénuée de toute référence directe à la prochaine consultation populaire sur la réforme constitutionnelle, un peu comme si Vladimir Poutine avait considéré que sa confiance affichée ces derniers jours dans l'espoir d'un résultat positif lors du scrutin qui débute demain suffisait à ce stade, au risque sinon de provoquer un rejet malvenu le jour de la victoire.
C'est un procès qui fait beaucoup de bruit en Turquie, un pays où les journalistes ont pourtant l'habitude des tribunaux. Ce mercredi, une cour d'assises d'Istanbul commence à juger 6 journalistes. Ils sont accusés d'avoir révélé l'identité d'agents des services secrets tués en Libye, où la Turquie est intervenue militairement pour soutenir le gouvernement d'Union nationale. Les journalistes sont incarcérés depuis maintenant début mars. À Istanbul, le reportage d'Anand Loer.
Ces 6 journalistes d'investigation, connus pour avoir révélé plusieurs scandales dans leur carrière, comparaissent cette fois-ci ensemble. Le parquet leur reproche d'avoir, je cite, « publié, propagé et révélé des informations sur l'identité, la mission et les activités de membres de l'Organisation nationale du renseignement ». En l'occurrence, d'avoir écrit sur les funérailles d'un agent des services secrets tué début février en Libye avec un de ses collègues. Des rumeurs sur la mort de ces 2 agents, avec leur nom et leurs photos, avaient pourtant circulé sur les réseaux sociaux avant que les journalistes ne publient leurs articles. Serkan Günel, avocat de la défense, dénonce un procès politique.
Il n'y a aucun élément concret dans l'acte d'accusation. Il est clair qu'ici, on cherche à fabriquer un crime de toutes pièces. On cherche à faire taire ces journalistes.
Une centaine de journalistes sont emprisonnés en Turquie. Et Roland Derolou, représentant de l'ONG Reporters sans frontières, estime que ce procès en dit long sur les méthodes de répression des médias dans le pays.
Ces 3 ou 4 dernières années, les journalistes ne sont plus seulement poursuivis sur la base des lois antiterroristes ou du code pénal. Ils sont poursuivis sur des bases inédites, telles que la loi sur les marchés des capitaux ou sur l'Organisation nationale du renseignement. Il n'y a plus de limite à l'imagination des autorités quand il s'agit d'emprisonner des journalistes.
Les 6 journalistes qui viennent de passer 3 mois et demi en détention préventive risquent jusqu'à 19 ans de prison.
La Covid-19 continue de faire des ravages en Amérique. Le seuil des 100 000 morts vient d'être dépassé en Amérique latine et aux Caraïbes. Autre région fortement touchée, le sud des États-Unis, notamment le Texas. L'État a enregistré 5 000 nouvelles infections, un record depuis le début de la pandémie, Claude Guibal.
Le chiffre est tombé mardi, 5 000 nouveaux cas, effectivement, ce qui a conduit le gouverneur de l'État, le républicain Greg Abbott, à demander à la population du Texas de se confiner, de rester chez elle à nouveau, après avoir été déconfinée au début du mois de mai. Pour l'instant, les hôpitaux gèrent la situation, mais elle pourrait devenir critique. Le bilan sanitaire est évidemment aussi une question éminemment politique après les sorties de Donald Trump. C'était samedi dernier à Tulsa, Donald Trump qui demandait à ralentir les dépistages puisqu'ils étaient, selon lui, à l'origine de l'augmentation du nombre de cas reconnus, CQFD. Ses propos polémiques ont depuis été modérées par l'immunologiste de la Maison-Blanche, le docteur Fauci, de plus en plus en décalage avec les visions du président américain, Anthony Fauci, qui a avoué son inquiétude. Il parle de 2 semaines critiques pour les États-Unis. Selon lui, l'augmentation du nombre de cas est à mettre sur le relâchement de la distanciation sociale, sur les rassemblements notamment, une façon indirecte évidemment de remettre en cause l'organisation de meetings, une question crucial pour Donald Trump à 6 mois de l'élection.
En Allemagne, Markus Braun a été libéré hier soir sous caution. L'ancien président de la société financière Wirecard, impliqué dans un vaste scandale de possibles comptes fictifs aux Philippines, il avait démissionné de son poste vendredi dernier. Un scandale qui embrase la place boursière allemande. Sur place, la correspondance de Nathalie Versieux.
Markus Braun n'a passé qu'une nuit en détention, mais ses démêlés avec la justice ne font que commencer. L'ancien patron de Wirecard, géant du paiement électronique qui, au temps de sa splendeur, avait évincé Commerzbank du DAX, le principal indice boursier allemand, l'ancien patron de Wirecard, donc, est au centre d'un scandale sans précédent en Allemagne. Vendredi, il avait démissionné avant de se livrer à la police. Lundi, au cœur de l'affaire, la somme de 1,9 milliards d'euros inscrits dans les comptes de l'entreprise, la somme censée se trouver sur les comptes de 2 banques des Philippines n'a sans doute jamais existé, a concédé lundi la direction. Markus Braun avait pris la direction de Wirecard en 2002, hissant la start-up au cœur du système bancaire allemand. À plusieurs reprises, la presse allemande avait élevé des doutes sur la solidité et le sérieux de l'entreprise, notamment des activités asiatiques. Mais ni le ministère des Finances, ni les autorités de contrôle, BaFin, n'avaient réagi. Cette affaire est un désastre complet, une honte pour le pays, a reconnu hier le patron du superviseur allemand. Le ministre des Finances a promis d'étudier un possible durcissement des règles de contrôle des entreprises.
Le crash d'un avion le mois dernier à Karachi est dû à la négligence des pilotes et des contrôleurs aériens. C'est ce qu'affirme le ministre pakistanais de l'aviation qui évoque un excès de confiance. Le pilote a ignoré les instructions des contrôleurs aériens qui, de leur côté, n'ont pas rapporté les dommages. C'est ce qu'il a expliqué devant le Parlement. Selon lui, pendant toute la phase d'atterrissage, le pilote et le copilote n'étaient pas concentrés. Ils parlaient du coronavirus. L'avion s'est écrasé sur une zone résidentielle, tuant 97 des 99 personnes à bord. Cet A320 de la compagnie Pakistan International Airlines assurait un vol entre Lahore et Karachi. Dans l'actualité française, l'économie serait-elle un peu mieux orientée que prévu ? L'INSEE publie ce matin une série d'indicateurs qui pourraient le laisser penser, le climat des affaires notamment. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Cet indicateur publié ce matin montre en tout cas que les entreprises retrouvent un peu le chemin de la confiance.
Oui, ce mois-ci, le climat des affaires se redresse très nettement, plus 18 points par rapport au mois de mai, même s'il reste très en deçà de son niveau moyen. Un indicateur qui est calculé à partir des réponses de 10 000 chefs d'entreprise des principaux secteurs marchands, industrie, services, commerce, bâtiments. Et ces derniers portent donc un regard plus optimiste sur leurs perspectives d'activité, ce qui est directement lié, souligne l'INSEE, à l'accélération du déconfinement. A souligné aussi, le climat de l'emploi se redresse, plus 13 points. Ça se passe un peu moins mal que prévu, a d'ailleurs commenté ce matin le président du MEDEF chez nos confrères de France Info. Alors un peu moins mal ne veut pas dire bien, ces indicateurs rebondissent après avoir beaucoup baissé. Il y a des secteurs qui sont toujours dans l'ornière, comme l'aérien, le tourisme, l'hôtellerie-restauration, mais c'est vrai qu'il y a des signaux encourageants. Les entrepreneurs du bâtiment portent ainsi une appréciation bien plus positive qu'en mai sur leur activité pour les 3 prochains mois. Dans le secteur du commerce et de la réparation automobile, les prévisions des chefs d'entreprise sur leurs commandes et leurs ventes se rapprochent de leur moyenne de long terme. La France est même plutôt mieux orientée que d'autres pays européens, selon une étude du cabinet IHS Markit publiée hier, car son économie est plus centrée sur son marché domestique et moins dépendante des exportations. Alors plusieurs observateurs appellent toutefois à la prudence, alors que les craintes d'une nouvelle vague ne sont pas écartées, que plusieurs pays annoncent des mesures de reconfinement. Et puis, il y a les inquiétudes concernant le marché du travail et les suppressions d'emplois qui jettent un voile sur ces prévisions. Ce n'est sans doute qu'au second semestre qu'on pourra réellement évaluer l'ampleur des dommages économiques.
Merci Anne-Laure Jumet. C'est une première à BFM TV. La première chaîne d'information française est secouée par une grève. Les programmes sont fortement perturbés. Les salariés du groupe Next Radio TV, auquel appartient la station, ont majoritairement voté pour un arrêt de travail. Ils protestent contre un plan d'économie annoncé par la direction. Cela commencerait par un plan de départ volontaire suivi de licenciements contraints si l'objectif n'était pas atteint. Une décision incompréhensible pour l'intersyndicale, surtout après les efforts fournis pendant la crise de la Covid-19. C'est ce qu'estime Anne Lebrun, elle est déléguée SNRT-CGT à BFM TV.
L'activité de notre secteur aujourd'hui, elle n'est pas menacée. On l'a bien vu pendant le confinement, on a fait des audiences records sur toutes les antennes. BFM TV est resté numéro 1, n'est toujours pas rattrapé par la concurrence, malgré le drapeau rouge qu'agite la direction à ce sujet-là. Le mot d'ordre aujourd'hui, notamment des journalistes, c'est qu'on devrait être récompensé pour tout le travail qui a été fourni encore pendant la crise sanitaire, et aujourd'hui on est puni. Une des incompréhensions aujourd'hui également, c'est le maintien d'une exigence éditoriale au niveau de la direction et des différentes rédactions. Est-ce qu'on peut maintenir une réelle exigence éditoriale alors qu'on va faire sans la moitié des pigistes et des intermittents qu'on a aujourd'hui ? On est un bon nombre à avoir un vrai attachement pour notre entreprise et aujourd'hui on ne peut pas laisser passer un tel plan qui pour nous serait synonyme de destruction du travail qui est fait par tous les salariés depuis des années.
Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, ordonne la suspension immédiate de la chaîne ovine de l'abattoir de Rodez. Il diligente une inspection complète, c'est ce qu'indique ce matin un communiqué. Cette annonce intervient quelques heures après la diffusion d'une vidéo de l'association L214 dénonçant les conditions d'élevage et d'abattage d'agneaux en lien avec la filière Roquefort. Des images à peine soutenables, on peut voir les conditions de vie déplorables de milliers d'agneaux dans de grands hangars. Certains ont les pattes cassées, d'autres morts jonchent le sol. Des agneaux sont égorgés vifs, sans respect des règles en vigueur concernant l'abattage rituel. D'autres sont mal étourdis et conscients avant leur mise à mort. Les détails avec Boris Loumagne.
Pour faire du roquefort, il faut du lait. Pour avoir du lait, il faut que les brebis aient des agneaux. 1 million de ces agneaux naissent chaque année pour produire le roquefort. Un quart sert à renouveler le cheptel. Pour les autres, la direction d'immenses hangars situés dans l'Aveyron. Sur les images filmées par L214, on voit des milliers d'agneaux serrés les uns contre les autres. Certains ont la patte cassée, d'autres sont malades. Des cadavres jonchent le sol, piétinés par leurs congénères. Pour les survivants, après l'engraissement, direction l'abattoir, là encore dans l'Aveyron. Les animaux sont égorgés vifs, alors ce n'est pas interdit. C'est ce qu'on appelle l'abattage rituel. Mais normalement, les animaux doivent être égorgés, puis maintenus tête en arrière, jusqu'à leur perte totale de conscience. Or, clairement, sur les images, les agneaux sont tués à la chaîne, puis ils sont suspendus par les pattes, la gorge sanguinolente, encore conscients. Les autres sont électrocutés avant d'être tués, mais on voit bien sur les images que cette pratique de l'étourdissement est bâclée. Résultat, L214 a porté plainte contre l'abattoir.
Difficile de respecter la parité dans les médias durant le confinement, c'est ce que révèle une étude publiée hier par le CSA. Il a épluché 89 heures de programmes de télévision et de radio entre les mois de mars et de mai, soit près de 3000 intervenants. D'une manière générale, le CSA a compté 41% de femmes contre 59% d'hommes. Chez les journalistes et présentateurs-présentatrices, la parité homme-femme a été quasiment atteinte, mais c'était loin d'être le cas pour d'autres catégories où les femmes ont été très peu visibles, Fiona Mogadam.
C'est le cas par exemple des expertes. Elles n'ont été que 20% à être interviewées entre les mois de mars et de mai contre 80% d'hommes, un chiffre qui tombe à 14% pour les femmes représentantes de l'État, 24% pour les femmes politiques. Chez les témoins professionnels de santé, c'est-à-dire les personnes interrogées pour évoquer leur quotidien, leurs conditions de travail, la parité est à peu près respectée. Mais dans le détail, les femmes ont été surreprésentées chez les aides-soignantes et les infirmières et sous représentés chez les pharmaciens et médecins. 27% de femmes médecins interrogées dans les médias alors qu'elles représentent à peu près la moitié des médecins, que ce soit en ville ou à l'hôpital. S'appuyant sur ces chiffres et sur ses propres auditions, la députée LREM Céline Calvez, chargée par le gouvernement d'un rapport sur la place des femmes dans les médias en temps de crise, a remis hier ses premières conclusions. Parmi les 21 pistes de travail évoquées, conditionner les aides à la presse aux efforts de parité, encourager les formations sur l'égalité femmes-hommes ou encore la création d'un label indépendant pour les bonnes pratiques en termes de parité. Le rapport définitif de la députée doit être rendu fin août au Premier ministre.
C'était dans les tuyaux depuis deux semaines. C'est officiel aujourd'hui. Oral Lines vient d'être placé en liquidation judiciaire. Les syndicats en ont eu la confirmation ce matin au tribunal de commerce de Nanterre. Prochaine audience le 21 juillet pour savoir si la liquidation sera totale et pour connaître le sort des 35 employés, ceux qui n'entrent pas dans le PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi de l'entreprise Eurolines, pour rappel, compte 110 salariés. Un répit d'un mois pour trouver également un repreneur. Une dizaine d'entreprises Île-de-France se sont positionnées, mais pas l'État, selon les syndicats. La direction de Flixbus n'a pas donné suite à nos sollicitations. Midi 47 sur France Culture. Contrairement aux idées reçues, le numérique est loin d'être neutre pour l'environnement. Et ce secteur est en pleine expansion, surtout depuis la pandémie qui a développé le télétravail. Le Sénat a organisé ce matin une conférence de presse pour présenter les travaux d'une mission d'information sur l'empreinte environnementale du numérique, présidée par Patrick Chaise, sénateur LR de l'Ain. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes notre invité. Ce rapport permet de mieux connaître l'empreinte environnementale du numérique en France. On sait déjà que le numérique est responsable de près de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Quel chiffre nouveau avez-vous découvert pour la France ?
Alors tout d'abord, on a découvert un grand nombre de chiffres nouveaux puisque il n'existait pas de chiffres jusqu'alors. Pour la France, en fait, l'ensemble des chiffres pour le numérique qui étaient à notre disposition concernaient le monde. Et force est de constater que la transposition de ces chiffres mondiaux ne s'appliquait pas de façon simple à la France. Pour une raison donc assez évidente, c'est notre système électrique qui est plutôt vertueux en termes de rejet de gaz à effet de serre et donc de carbone, de poids carbone, et qui déséquilibre en fait les rapports. Donc le but de cette mission, c'était de pouvoir donc examiner donc tout ce qui pouvait donc être fait en la matière et nous donner des éléments factuels pour que on puisse appuyer les politiques publiques en la matière.
Oui, 4%, c'est bien les émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial hein, et pas national. Question de Maxime Tellier.
Bonjour Monsieur Chaise. Est-ce que, grâce à ce rapport, vous avez pu comprendre ce qui polluait le plus dans le numérique ? Est-ce que ce sont les data centers ? Est-ce que ce sont ce qu'on appelle les terminaux, comme les smartphones, par exemple ?
Alors oui, tout à fait. Donc on a pu effectivement mettre en avant que le poids, notamment pour la France, des terminaux était très important, puisqu'il représente 80% en fait du poids global. C'est-à-dire qu'on va considérer que on a donc en dépenses énergétiques une partie amont et une partie aval. La partie amont, c'est la fabrication du terminal. La partie aval, c'est son utilisation. Et donc le rapport est donc absolument significatif, puisque on encore une fois, 80% du poids énergétique, du poids environnemental, et sur le terminal, compte tenu, là encore une fois, que ces terminaux sont fabriqués pour la grande majorité en dehors de notre pays et principalement en Asie du Sud-Est, qui, du point de vue de l'utilisation d'énergie électrique, est pas forcément l'exemple à suivre.
Et alors justement, dans ce rapport, vous pointez que 80% de l'empreinte carbone du numérique français était mise à l'étranger, donc fabrication des terminaux et stockage des données dans les centres de données à l'étranger. Quelles sont les mesures que vous proposez, sachant cela, sachant que cette pollution n'est pas émise chez nous?
Alors,
en majorité.
Il y a plusieurs pistes. Donc évidemment, la plus simple serait de dire, mais il faut qu'on construise les terminaux chez nous. Donc c'est une piste tout à fait théorique, parce qu'on pourrait intellectuellement donc le penser, mais ça serait pas forcément tout à fait donc objectif. Non, les pistes que l'on ouvre sont des pistes plutôt de durée de vie des matériels. Aujourd'hui, on constate que la durée de vie des terminaux est de 23 mois en moyenne, alors même que globalement on pourrait prolonger cette durée de vie de façon certaine, sans donc qu'on soit défavorisé ou qu'on ait des matériels qui soient plus adaptés. Donc il y a de la pédagogie à faire, à mon sens, sur le sujet, et ça fait partie des axes vraiment de notre rapport, pour que chacun prenne conscience que en prolongeant la durée de vie de nos matériels, soit par une utilisation personnelle, soit par un réemploi de ces matériels, on pourrait déjà gagner beaucoup.
Mais vous ne prenez pas seulement de la pédagogie, vous prenez aussi des contraintes, une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Vous voulez interdire les forfaits mobiles données illimitées aussi dans ce rapport?
Oui, alors en fait, sur les deux sujets, la taxe carbone, c'est plutôt là pour les usages, c'est effectivement de faire en sorte que les autoroutes qui sont utilisées puissent être finalement abondées par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer aujourd'hui que si les autoroutes étaient gratuites, donc on ne se priverait pas de mettre des camions de grand gabarit de façon plus forte qu'elle n'est aujourd'hui. Donc pour limiter le fait que des débits importants soient transités sur les réseaux, l'idée de mettre une taxe à nos frontières d'utilisation des réseaux, c'est une forme de péage plus qu'un taxe, si vous voulez le voir comme cela, serait effectivement vertueux. En ce qui concerne les forfaits, au jour d'aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est de donner à la donnée une dimension qui est une dimension matérielle, quelque part. Dans tous les réseaux de distribution, quel que soit d'eau ou d'électricité, on sait la valeur du bien transporté et consommé. Un litre d'eau, ça se produit, ça a une valeur environnementale. La donnée, c'est plutôt quelque chose d'assez virtuel, insaisissable. Eh bien, il faut qu'on prenne conscience que non, la donnée, ça a une valeur aussi donc en matière, en énergie. Et donc, en limitant le nombre de cette matière, on a un impact direct sur l'environnement. On n'imaginerait pas aujourd'hui d'avoir des forfaits de consommation d'eau illimitée.
Considérer la donnée comme une ressource rare. Dans ce rapport, vous voulez aussi obliger les plateformes vidéo à limiter la diffusion en HD, limiter l'autoplay, par exemple, ces vidéos qui se lancent toutes seules alors qu'on n'a pas demandé à les lancer. Pour tout cela, il va falloir des lois, convaincre l'Europe, contraindre aussi sans doute les GAFAM, les géants du numérique. Comment vous allez faire tout cela?
Alors exactement. En fait, ce rapport, il faut le prendre comme étant un rapport d'étape, qui est finalement, c'est pas prévu à l'origine, mais la période de la crise sanitaire qu'on vient de traverser nous a contraints à travailler d'une façon différente, et notamment beaucoup par des échanges écrits. Donc on avait commencé cette mission en janvier avec évidemment des auditions directes avec nos interlocuteurs, et puis en accord avec les rapporteurs et les membres de la mission, on a prolongé nos travaux pendant cette période de confinement, surtout par des échanges écrits. Donc incomplets. Notamment, on n'a pas pu rencontrer les GAFAM, qui sont des acteurs importants sur le sujet, et également aller visiter des data centers, notamment des data centers qui ont des innovations particulières, qui peuvent donner des exemples importants, d'où ce rapport d'étape, qui va donner lieu à un travail complémentaire dès la rentrée, pour faire des propositions sous la forme de propositions de loi.
Et merci. Une proposition de loi sans doute à l'automne.
Très certainement.
Merci beaucoup.
Merci à vous Patrick Chaise et merci également à Maxime Tellier. Coup de chaud en France, les températures sont en forte progression partout, très supérieures aux normales saisonnières. Comptez cet après-midi 21 degrés à Cherbourg, 24 à Biarritz, 29 à Lille et 33 à Paris. Et le soleil va dominer partout. C'est la fin de cette édition préparée avec Nathalie Lopez. Prochain journal à 18h avec Benoît Bouscarel.